Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis, les amis visiteurs aussi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être là dans sa maison pour entendre aussi sa parole. J'ai pensé, en voyant justement nos frères qui sont là, Mathieu, Jonathan, et d'autres qui sont là aussi pour peut-être pour la première fois, on vit déjà justement cette réalité. Lorsque nous serons au ciel, nous serons tous ensemble, quelle que soit l'église locale d'où l'on vient. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu et il viendra ce jour où nous serons tous ensemble. Et donc là, nous vivons déjà cette vérité. Donc c'est pour moi aussi une joie aussi de vivre cette chose-là. Notre frère a conduit donc ce temps de louange en mettant l'accent sur la parole de Dieu, cette divine parole. Et c'est vrai que c'est une grâce que le Seigneur nous fait de nous avoir laissé sa parole. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de la lire, de la connaître de plus en plus. Et en lisant ce psaume 119, le psalmiste il dit je, c'est vraiment le désir de son cœur, on le lit à travers ce psaume 119. Et je voudrais que chacun individuellement, en le lisant, se mette à la place du psalmiste et vive ce que dit le psalmiste dans ce psaume-là. Et je crois que si nous nous imprégnions vraiment de ce texte, nous allons voir combien c'est important, mais combien la parole peut nous transformer, nous changer, combien ça demande aussi de notre part un désir, une volonté de la laisser nous le faire. Et le psaume 119 est magnifique pour cela. Donc le Seigneur veut aussi que nous l'étudions, et c'est pour cela aussi qu'il a donné l'Église, il a donné aussi qu'il y ait des personnes pour pouvoir instruire aussi dans la parole. Et il dit aussi de faire attention parce que nous serons, ceux qui donnent la parole seront jugés plus sévèrement. C'est parce que c'est la parole de Dieu. Et la donner, la partager aussi, c'est une grande responsabilité. Et en cela, chacun, nous devons veiller à ce que lorsque nous partageons la parole, nous qui avons cette responsabilité, de nous assurer que nous ne nous y écartons pas d'un iota par rapport à ce qui est dit, en pleine conscience, selon le Seigneur. J'aimerais que nous puissions ouvrir ce texte de Luc chapitre 5, où nous voyons dans ce chapitre 5 plusieurs rencontres du Seigneur Jésus-Christ avec des hommes. L'apôtre Pierre, son frère André, Jacques et Jean, qu'il appelle à son service. Après, il y a eu cette rencontre avec ce lépreux qui est venu au pied de Jésus, voulant être délivré, être purifié de cette lèpre. Et aussi, ce paralytique, ses quatre amis amènent au pied de Jésus. Et Jésus qui, avant d'apporter cette délivrance physique, lui apporte une délivrance spirituelle et lui dit que ses péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, nous voyons le texte de Luc chapitre 5 à partir du verset 27 où il est parlé donc de cette rencontre de Jésus avec Lévi ou Matthieu, donc celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, et cette discussion qu'il y a eu entre le Seigneur Jésus, les disciples et les pharisiens qui étaient là. Et aujourd'hui, j'aimerais, à partir de ce texte, nous encourager à venir à Jésus tel que nous sommes. Et ce texte, à travers ce texte, j'aimerais montrer que Matthieu, c'est ce qu'il a fait. Il est venu à Jésus en toute simplicité. Il est venu à Jésus avec humilité. Mais aussi, le Seigneur nous montre par la suite qu'il faut venir à lui aussi avec un esprit disposé, un esprit prêt au changement. Et c'est ce que Matthieu aussi a fait. Et donc, nous allons lire ce texte de Luc chapitre 5 à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains ?» Ah, pardon. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre avec un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres et se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Voilà, prions. Oui, nous te remercions, notre Dieu, pour ta parole. Nous te prions de nous conduire dans ce temps de réflexion et que ta parole puisse parler à nos cœurs. Nous voulons penser aussi aux enfants, à la monitrice qui et aux monitrices qui leur apportent ta parole, qu'eux aussi tu disposes leur cœur et que tu donnes aux monitrices les mots qu'il faut pour que, adapter à ces enfants. Donc nous tous, qu'on soit ici ou à l'étage, conduis-nous par ton esprit, dispose nos cœurs et que ta parole puisse faire son œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc dans ce texte de Luc chapitre 5, on avait parlé de ces rencontres et le Seigneur Jésus qui appelle Pierre. Et lorsque Pierre voit ce miracle, il dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et le Seigneur Jésus, il dit à Pierre « Je ferai de toi un pécheur d'homme. » Après, le texte nous parle de cette rencontre de Jésus avec ce lépreux. Et nous avons souligné justement quels sont les différents aspects du péché qui peuvent être soulignés à travers ces histoires. Avec cet homme lépreux, parler du péché qui est à ce côté repoussant, ce péché qui peut nous éloigner des autres aussi, comme les lépreux qui étaient mis à part. Et puis nous avons aussi parlé de ce paralytique et voir le péché qui a cet effet paralysant, effectivement. Parce que à cause du péché, nous ne pouvons, nous restons bloqués, nous ne pouvons pas toujours faire les choses que nous faisions, nous arrêtons de les faire et malheureusement nous sommes là comme paralysés. Et donc à cause du péché, il a fallu que Jésus vienne sur la terre pour rétablir la communion de l'homme avec son Dieu. Et donc c'est pour cela qu'il dit au verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il est venu pour cela appelé à la repentance. Il dit, pas des justes, mais des pécheurs. Alors, en le disant ça, c'est parce qu'il y avait ces discussions avec ces pharisiens, ces scribes, ces personnes qui étaient attachées à la loi, à leur tradition, et ces gens de mauvaise vie que Matthieu avait invités chez lui pour qu'ils entendent Jésus, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Et le Seigneur dit voilà, qu'il est venu appeler à la repentance, non des justes, mais des pécheurs. Et donc, tous ceux qui se reconnaissent comme pécheurs et qui se repentent devant Dieu, le Seigneur leur dit, voilà, c'est pour toi que je suis venu. Donc, si le Seigneur Jésus est venu, c'est parce qu'il savait que les hommes pécheurs, ceux qui se reconnaissent pécheurs, sont comme ces lépreux ou ces paralytiques, donc des personnes qui ont besoin de médecins, des personnes qui ont besoin d'un spécialiste pour pouvoir les aider et qu'ils puissent retrouver une bonne santé. D'où l'image qu'il utilise pour parler de ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et c'est pour cela que Jésus, il guérissait les personnes, les malades, les gens qui avaient toutes sortes de maladies, il les guérissait. Donc il utilise cette image de médecin pour parler de la situation du cœur de l'homme, qui a l'homme qui est pécheur, qui est comme malade et qui a besoin de médecins pour pouvoir trouver la santé spirituelle. Donc il est le Seigneur Jésus-Christ, ce grand médecin dont tous ont besoin, capable de guérir donc, non seulement toute maladie physique, mais aussi surtout de guérir nos maladies spirituelles, comme il guérissait des personnes qui étaient possédées par des esprits impurs. Il connaît l'état de notre santé spirituelle et il sait de quoi nous souffrons. Il s'est identifié comme un bon médecin, identifié la maladie, identifié de quoi nous souffrons. Il sait reconnaître aussi la cause de cette maladie et il sait aussi comment faire pour nous apporter la guérison. Lorsque nous allons chez le médecin, c'est parce que nous savons qu'il y a un problème et nous savons que lui, il a la solution et il nous pose quelques questions pour pouvoir savoir et faire un diagnostic. Donc la question qui nous est posée est la suivante. Est-ce que nous voulons venir à Jésus pour trouver la guérison? Ou est-ce que nous estimons que nous n'avons pas besoin de Jésus pour être guéri? Et c'est là, chacun doit pouvoir répondre pour lui-même. Il y a des personnes qui viennent et qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils estiment être en bonne santé et puis ça va, on n'a pas besoin de Jésus. Tout comme il y a des gens qui sont malades, mais ils estiment qu'ils sont en bonne santé. J'ai une sœur qui me parle de ça, mais c'est vrai. Il faut accepter, l'entendre, qu'on est, on n'est pas bien. On n'est pas bien et qu'on a besoin d'aller voir un médecin. Et la Bible nous dit que l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, il n'est pas bien, il est malade. Parce qu'il y a en lui le péché qui est là, qui le caractérise. Et donc, quel que soit d'où nous venons, qui nous sommes aux yeux de Dieu des hommes et des femmes malades qui avions besoin d'un médecin. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de personne plus excellente que d'autres. L'apôtre Paul dit dans Romains 3 que sommes-nous donc plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors lorsque le Seigneur Jésus, il dit, voilà, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais des malades. Donc le constat que fait l'apôtre Paul, tous les hommes sont des malades. Et donc si ces pharisiens pensent qu'ils sont en bonne santé, ben, ils se trompent. Et malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui peuvent entendre la parole de Dieu, mais qui estiment qu'ils sont en bonne santé et qui estiment qu'ils n'ont pas besoin forcément de Dieu. Donc, quelle que soit notre condition, nous pouvons venir à Jésus pour trouver la guérison. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, mais aussi pour ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus. Parce que lorsqu'on devient chrétien, on ne devient pas un saint, un saint aux yeux de Dieu. Mais on sait très bien qu'il y a des choses à corriger. On sait très bien qu'il faut progresser. On sait très bien qu'il y a différents aspects de notre vie où Dieu veut travailler dans notre cœur. Donc, constamment, nous sommes appelés, amenés à venir à Jésus-Christ pour trouver la guérison. Et Dieu fait un travail dans notre cœur lorsqu'il nous sauve. Il fait un travail dans notre cœur. Il règle d'abord un problème, après il règle un autre. Donc constamment, nous avons besoin de venir à Jésus-Christ. Si on n'a pas encore donné notre vie à Jésus, il faut venir à lui pour trouver la guérison spirituelle et trouver la paix avec Dieu. Mais si nous avons déjà mis notre foi en Jésus, que nous soyons baptisés, nous devons encore venir à Jésus-Christ parce que nous savons que Dieu fait une œuvre dans notre cœur pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Donc constamment, nous avons besoin de venir à Jésus. Constamment, nous avons besoin de reconnaître que nous avons tel ou tel problème. Nous sommes peut-être paralysés peut-être par telle chose qui nous empêche d'avancer, et nous venons à Jésus, nous le confions, et il nous aide à nous relever et à marcher. Et là, Matthieu ou Lévi, le Seigneur va l'appeler, et cette rencontre est une rencontre vraiment particulière. Dans ce texte, j'aimerais d'abord voir que Matthieu, il a pu trouver la guérison spirituelle parce qu'il est venu à Jésus avec simplicité. Dans les versets 27 à 29, il était là, il était assis dans son bureau de péage. Il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages et lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et suivit Jésus. Et Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Le Seigneur, donc Jésus, a appelé, appelle tous les hommes et femmes qui se reconnaissent pécheurs. Donc que l'on soit ouvrier, que l'on soit pêcheur de poissons comme l'étaient Pierre, Jacques et Jean, mais aussi que l'on soit fonctionnaire des impôts comme Matthieu, qui était donc péager, il travaillait pour les Romains, il collectait les impôts et voilà, leur réputation c'était de ne pas juste collecter ce qu'il fallait collecter, ils prenaient plus et ils se remplissaient les poches. Et donc, il vient à Jésus avec simplicité. Matthieu fait partie de ces classes aisées, donc ces publicains, mais il travaillait pour, entre guillemets, pour l'ennemi des Juifs, donc ces Romains qui étaient là. En Luc chapitre 3, verset 13, Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient à lui pour être baptisés et lui demandaient ce qu'ils devaient faire, Jean-Baptiste leur disait « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Donc lorsque ces publicains venaient à lui pour demander le baptême de repentance, il dit « Mais que devons-nous faire ? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Et Matthieu, ou comme Zachée aussi, ces publicains, ils exigeaient de leurs compatriotes plus que ce qui était nécessaire. Et Jésus passe et Jésus appelle cet homme qui était là, assis au bureau des péages, là comme d'habitude. Donc tout le monde connaissait qui était Matthieu. Tout le monde savait quel était son métier. Tout le monde savait quelles étaient ses pratiques également. Tout le monde savait que c'était un homme malhonnête. Mais malgré cela, il est venu à Jésus tel qu'il était, avec simplicité, parce qu'il savait qu'il avait besoin de son pardon, du pardon du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'avait déjà convaincu de péché, alors peut-être par la prédication de Jean-Baptiste ou par les messages que le Seigneur Jésus lui-même a donnés, il a dû l'entendre. Et là, le Seigneur Jésus qui passe, et lorsqu'il dit à Matthieu, « Suis-moi », sans hésiter, Matthieu se lève et suit le Seigneur. Ça montre qu'il y avait déjà un travail préalable du Saint-Esprit dans le cœur de cet homme. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à se lever et à suivre Jésus-Christ parce qu'il savait que c'était Jésus qui était là, que lui seul pouvait lui apporter la guérison. Matthieu a reconnu qu'il était donc malade et qu'il avait besoin de médecin. Et ce médecin était Jésus. Il est venu à lui tel qu'il était, en laissant derrière lui ce métier de péager. Il a renoncé à gagner plus d'argent de manière malhonnête, mais il a tenu à inviter ses anciens collègues et amis chez lui, afin que ceux-ci aussi puissent entendre la parole de Jésus. Et celui qui s'appelait donc Lévi, qui signifie « attaché » ou « joint », a décidé de se détacher de cette vie passée. Il a décidé de se détacher de cette vie passée pour s'attacher à Jésus et ainsi devenir Matthieu, qui signifie « cadeau de Dieu ». Il a été effectivement un cadeau de Dieu parce qu'il fut nommé apôtre par notre Seigneur Jésus-Christ et il a écrit cet évangile, l'évangile de Matthieu qui porte son nom. Alors pour dire que nous pouvons être, oui, frères et sœurs, des cadeaux de Dieu aussi pour notre prochain, si nous reconnaissons notre état devant Dieu et si nous répondons aussi à son appel, lorsqu'il nous dit « Suis-moi », que nous puissions faire comme Matthieu, en toute simplicité, nous lever, ne pas nous poser des questions, de dire « Ah oui, qu'est-ce que les gens vont dire ?» ceci. Non, je me lève et je suis mon Seigneur. Voilà. Et Matthieu, donc, c'est ce qu'il fait. Donc, on peut lire ce texte de 1 Timothée, chapitre 1, où l'apôtre Paul aussi, pareil, qui avait une vie passée où tout le monde connaissait qui était l'apôtre Paul, celui qui persécutait les chrétiens. Dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 12. Et lorsqu'il va faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur ce chemin de Damas, le Seigneur, il va dire « Qui es-tu Seigneur ?» Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il va dire tout de suite « Que veux-tu que je fasse ?» Et l'apôtre Paul, il rend ce témoignage dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12, quand il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, il rend grâce à Dieu parce que, c'est vrai, il reconnaît ce qu'il a fait, mais le Seigneur a usé de miséricorde en lui. Alors, quelqu'un a dit que Lévi, donc Matthieu, perdit un emploi confortable, mais il trouva un sens à la vie. Il renonça à des revenus importants, mais il trouva l'honneur Il abandonna la sécurité matérielle, mais il découvrit une aventure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Voilà, lorsqu'on décide d'obéir et de suivre Jésus-Christ, lorsque nous avons reconnu qu'on est malade et que c'est lui le médecin, c'est lui qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer, alors notre vie, elle change. L'autre chose, c'est que Matthieu est venu à Jésus avec aussi humilité, que j'aimerais souligner. Donc, quelques temps après cette rencontre, le Seigneur Jésus-Christ va se retirer, selon Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Il va prier et il va choisir parmi tous ses disciples, 12, qu'il va appeler apôtres, qui veut dire envoyés. Et donc, parmi ces 12, il y a Matthieu. Et si vous comparez les différents textes de donc Matthieu, Marc, Luc et ce que Luc dit dans Actes des Apôtres, lorsqu'il cite justement cette liste d'apôtres, ce qui m'a interpellé, c'est que Matthieu, il est le seul, lorsqu'il donne la liste de ses 12 apôtres, lorsqu'il dit Matthieu, il ajoute le publicain. Les autres, Luc, Marc, lorsqu'ils donnent la liste, ils disent juste Matthieu. Pour dire que pour Marc et Luc, voilà, ce qu'ils ont fait avant, c'est comme si on disait Pierre, le pêcheur, ou bien un tel qui avait fait telle chose. Non. Mais Matthieu, lui, lorsqu'il écrit l'évangile qui porte là son nom, il dit Matthieu le publicain, parce que lui-même, il n'oublie pas qui il était. Il n'oublie pas ce qu'il faisait. Il n'oublie pas d'où le Seigneur l'a pris. Et lui, il dit Matthieu le publicain. Matthieu montre là, et je crois, son humilité. En soulignant ce point-là, tout comme l'apôtre Paul, quand il dit persécuteur de l'Église, voilà, il ne peut ne pas écrire tout cela, mais il n'a pas honte de le dire, de l'écrire, parce qu'il sait ce qu'il a fait, il sait d'où le Seigneur l'a pris, et s'il l'écrit, c'est pour donner gloire à Dieu, mais aussi ça montre aussi son humilité. Matthieu montre aussi son humilité en invitant ses anciens amis à venir entendre les paroles de Jésus. Il n'a pas honte que ces personnes, ses anciens amis, de ce qu'il pourrait dire. Pourquoi a-t-il quitté son travail pour suivre Jésus? Il n'a pas eu honte d'inviter donc ses amis pour qu'ils puissent être là et entendre le message que le Seigneur Jésus avait à leur donner. Il a tout quitté, mais il n'a pas honte des raisons pour lesquelles il a quitté ce qu'il faisait. Et parfois, c'est vrai que lorsque on est chrétien, parfois, et c'est dommage, mais on a parfois cette honte, parfois d'inviter un collègue ou bien d'inviter un voisin ou bien voilà. Mais lui, il n'a pas eu honte. Venez, je vous invite. Il faut que vous entendiez quelque chose. Et là aussi, il montre son humilité. Les pharisiens, par contre, et les scribes qui étaient là, qui sont venus, là, ils sont passés à côté de la grâce de Dieu. Ils n'ont pas pu saisir cette grâce à cause de leur orgueil. À cause de l'endurcissement de leur cœur, le texte dit qu'ils murmuraient et ils disaient aux disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Voilà, au lieu de voir la grâce de Dieu, ils étaient en train de murmurer parce qu'ils faisaient preuve d'orgueil. Ils estimaient qu'ils étaient meilleurs que les autres, ces pharisiens. Eux, ils jeûnaient, ils priaient, tandis que, comme ils disent un peu après, les disciples de Jésus mangeaient et buvaient. Donc, ils étaient, eux, des super spirituels, Et puis les autres qui étaient là, c'était des buveurs. Et donc, ils sont passés à côté. Ils n'ont pas su saisir la grâce qui leur était offerte. À cause de leur orgueil, ils n'ont pas fait preuve d'humilité. Ils sont restés sur leur piédestal et ils n'ont pas voulu descendre comme Matthieu l'a fait. Donc, je veux souligner que notre regard par rapport aux autres et l'image qu'on veut donner de nous-mêmes peuvent nous empêcher d'avoir un regard lucide sur nous-mêmes. Ces pharisiens, ces scribes, regardaient les autres, mais moins qu'eux. Eux, ils étaient au-dessus. Mais ils n'ont pas vu leurs problèmes, ils n'ont pas vu leurs besoins de Jésus. Et donc, faisons attention à cela. Sachons voir la réalité de notre condition spirituelle. Et voyons la réalité de notre besoin de médecin. Et au lieu de porter notre regard sur ce que font les autres, puisqu'ils disaient, mais pourquoi mangez-vous? Pourquoi ne jeûnez-vous pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Regardons à nous-mêmes et laissons la lumière divine, la lumière de Dieu venir nous éclairer. Et malheureusement, on est parfois trop, un peu comme ces pharisiens, à regarder les autres, à comparer, à critiquer, etc. Et puis on ne voit pas nos propres problèmes. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Pour savoir comment enlever la paille de l'œil de l'autre. Donc avec humilité, venons à Jésus pour trouver la guérison. Et j'aimerais juste terminer avec ce troisième point, dans les versets 36 à 39, que j'aimerais voir que. Et le Seigneur va avoir cette discussion avec ces pharisiens-là. Dire qu'il faut venir à Jésus avec un esprit ouvert, un esprit prêt à accepter aussi les changements. Si nous venons. Et que nous ne voulons pas les changements, alors nous n'allons pas être transformés. Et c'est vrai que ce qui caractérisait ces pharisiens, c'était leur attachement à la loi, à leur tradition. Et malheureusement, cet esprit légaliste voilait l'évangile de Christ. Et Satan utilisait cela aussi pour aveugler leur intelligence. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, quand il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc, ces personnes, à cause, ils étaient attachés à la loi, attachés à leur tradition, et ça les a empêchés de voir la splendeur de l'évangile que le Seigneur était là et apportait. Et dans Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Voilà. Tout ça, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors là, il y a un parallèle qui est fait entre la loi de l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, qui est l'Évangile. Le Seigneur Jésus, et le texte de Jean qu'on a lu, il dit, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par le Seigneur. Donc là, eux, ils étaient encore sous la loi. Eux, ils étaient dans leur tradition. Ils ne voyaient pas l'évangile. Ils ne voyaient pas la grâce que le Seigneur apportait. Et pour trouver la guérison, le Seigneur Jésus demande donc aux pharisiens de faire un choix. faire un choix entre le vieux et le neuf, entre la loi et l'évangile. Parce qu'il leur dit, en fait, les deux ne peuvent pas s'accommoder ni cohabiter. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, nous dit l'apôtre Paul. Et malheureusement, les pharisiens ont préféré le vin vieux de la loi au lieu du vin nouveau, la grâce. Et au verset 39, il est dit, « Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Bon, alors toute illustration a ses limites, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que eux, pour eux, non, la loi, voilà, on veut rester là, on veut pas. Et il y a, dans certains milieux, où ils mélangent les deux. Bon, je veux pas les citer. Mais voilà, on parle de Jésus, mais on est encore attaché à la loi avec le sabbat, etc. Et là, il y a un problème. C'est ne pas comprendre quel est le but de la loi. Oui, la loi, elle est bonne, mais pourquoi Dieu l'a donnée? C'est Dieu qui l'a donnée. Et il l'a donnée pourquoi? C'est pour nous faire prendre conscience que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de sauveur. Mais une fois que le sauveur est venu, une fois que la grâce est là, il dit on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et malheureusement, les personnes veulent la grâce, mais ils veulent aussi rester sous la loi. Et donc, le Seigneur le dit, on peut pas, la loi, quand il dit, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, et il se répand les outres, et les outres sont perdues. Voilà. Il dit, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Donc, il y a un choix à faire. Il y a, quand on vient à Jésus-Christ, il faut être prêt à abandonner ces pratiques, ces mauvaises pensées, ces choses que nous faisions et nous chercher à calquer notre vie sur ce que le Seigneur nous dit maintenant. Donc l'apôtre Paul, il disait que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il dit donc, je suis le premier. Et dans Jean chapitre 6, verset 37, le Seigneur dit que tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et pour venir donc à Jésus, nous soyons comme Matthieu, qui est venu avec Jésus tel qu'il était, en toute simplicité, sans se poser de questions. Il est venu avec humilité, conscient de ce qu'il faisait et de son indignité. Il est venu aussi avec un esprit ouvert, disposé à accepter les changements qui seront nécessaires. Et malheureusement, les pharisiens et les scribes n'ont pas voulu cela. Et en répondant à l'appel du Seigneur, « Suis-moi », le Seigneur nous reçoit aussi comme un cadeau du Père et fait de nous ses disciples. Donc c'est, voilà, que nous puissions venir à Jésus, que nous puissions venir de tout notre cœur, et disons au Seigneur, voilà, je veux te suivre, sers-toi de moi, et je viens à toi tel que je suis. Et j'aimerais qu'on chante ce cantique, justement, qui est dans la 3, la gloire, le 243, pour terminer. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen.